Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle est sur Radio Saféréole 94.2, l'émission qui compte. En direct le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h, avec Sophie au micro et Pierre à la technique. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission qui va être consacrée à des contes venus de Grèce. La Grèce, c'est un pays d'où je reviens. Et il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des histoires mythologiques, mais il y a aussi tout un folklore qui est plus récent. Dans l'île de Kéa, qui fait partie des Cyclades, il y a un lion. Un vieux lion de pierre qui est installé là depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on raconte que jadis, l'île de Kéa était verte et fertile, qu'il y avait une abondance de sources et de rivières, parce que dans cette île vivaient des nymphes des eaux. Seulement, ces nymphes avaient un vilain défaut, c'est qu'elles étaient friandes de chair humaine, et particulièrement de la chair des jeunes enfants bien tendres et bien juteuses. Alors les habitants de l'île, voyant leurs enfants menacés, et eux-mêmes aussi par ces nymphes, ont imploré la protection du dieu des dieux, Zeus. Zeus, il a écouté leur requête, il a envoyé sur l'île un lion féroce. Ce lion a fait très peur aux nymphes qui se sont sauvées. Elles sont parties de l'île, mais en partant, elles ont emporté avec elles toute l'eau des sources et des rivières. L'île de Kéa est devenue une île très aride, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'avoir beaucoup de charme. Le lion est resté là. Si sa crinière est un peu usée et s'il n'a plus l'air très féroce, eh bien, il fait partie des beautés de cette Cyclade. Mais sans plus attendre, voici une première histoire. Une histoire qui est très répandue dans toute la Méditerranée. C'est l'histoire de la fille de Thalassa. Thalassa, c'est la mère en grec, hein, c'est là d'où vient thalassothérapie, par exemple. Donc la fille de Thalassa, la fille de la mère. Et il y a longtemps, il y avait une petite vieille qui vivait dans une cabane non loin de la mer. Chaque soir, la vieille pissait dans un pot, puis elle mettait le pot dehors, derrière sa cabane. Le lendemain matin, elle allait le vider un peu loin de sa maison. Seulement, un matin, elle a oublié. Et le pot d'urine est resté là, en plein soleil. Et peu à peu, sous les rayons du soleil, eh bien, l'urine s'est mise à bouillonner. Elle a produit un sifflement, une sorte de chant. Et voilà que ce chant est arrivé jusqu'aux oreilles du capitaine d'un navire qui passait au large. Le capitaine, qui justement avait très envie de se marier, a entendu cette mélodie. Il a dit « Oh, qu'est-ce qu'il doit y avoir ici, une belle jeune fille qui chante aussi bien ?» Alors aussitôt, il a ordonné à ses marins d'aller à terre et de lui ramener la jeune fille qui avait cette voix si merveilleuse. Les marins sont arrivés, ils ont débarqué à la porte, ils ont frappé à la porte de la vieille. « Bienvenue messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Eh bien, notre capitaine voudrait rencontrer la jeune fille à la voix si mélodieuse. La vieille est un peu interloquée, puis elle a écouté, elle a entendu. Alors, elle avait très envie de rire, mais elle avait aussi très envie de monter sur un bateau. Parce que même si elle habitait sur la côte, elle n'était jamais montée sur un bateau. Elle s'est dit que c'était peut-être l'occasion. Elle a dit, oui, c'est ma fille, mais ma fille ne sort jamais avant que la nuit soit tombée. Alors, messieurs, si vous voulez bien, revenez ce soir. Et avec ma fille, eh bien, nous viendrons vous visiter sur votre bateau. Les marins sont retournés voir leur capitaine. Ils lui ont dit que la jeune fille viendrait le soir. Bon, le capitaine a attendu. La vieille, elle, s'est dépêchée, elle a vidé son pot, et puis elle a construit une espèce de poupée en dessus, en chiffon et en bâton. Elle l'a enveloppée dans un grand voile blanc, et elle s'est installée devant sa porte avec cette sorte de poupée dans les bras. Elle a attendu. Et le soir venu, les marins sont venus chercher la promise. La vieille est montée à bord et elle tenait dans ses bras son pot, là, soigneusement emballé. Et le capitaine, aussitôt, est arrivé, brûlant d'impatience. « Et où est la fille ?»« Ah, monsieur, ma fille n'accepte de montrer son visage qu'au lever du soleil. Il va falloir attendre. » La vieille s'est assise sur le pont. Elle a posé son paquet devant elle et elle faisait mine de lui parler et d'écouter les réponses, tout en se demandant quand même comment elle allait faire pour se sortir de cette histoire, parce que si le capitaine se rendait compte qu'elle l'avait trompée, elle risquait de passer à très mauvais quart d'heure. Heureusement pour elle, il y a une tempête qui s'est levée. Une terrible tempête, les marins et le capitaine ont eu autre chose à faire qu'à penser à la vieille et à sa fille. Et ils pensaient qu'à laisser leur bateau debout sur la mer. Vite, alors la vieille en a profité, elle a jeté le pot et tout son contenu dans la mer. Et elle s'est mise à crier « à l'aide, ma fille est tombée à l'eau, faites quelque chose, au secours, au secours !» Tout l'équipage aussitôt s'est activé pour la retrouver. On a scruté les profondeurs marines avec des torches. Mais bien sûr, la fille était introuvable. Et soudain, la vieille a aperçu, assise sur un rocher, là, au milieu des flots, la fille de Thalassa, la fille de la déesse de la mer. Et qui était là, qui rayonnait, on aurait dit qu'il y avait de la lumière qui sortait de sa chevelure. « Ah, la voilà !» criait la vieille là-bas, elle a réussi à monter sur le rocher, ma fille !» Des matelots aussitôt ont sauté dans une chaloupe et ils ont ramé jusqu'au rocher pour ramener la splendide créature. Dès qu'elle est arrivée sur le pont, c'est comme si... Il y avait eu un halo d'or qui nimbait sa peau, ses yeux scintillaient comme des étoiles. Le capitaine était ébloui, il l'a accueillie avec les égards qu'il aurait eus pour une reine. « Sois la bienvenue à bord, je voudrais t'épouser, est-ce que... Dis-moi ton nom s'il te plaît. » La belle n'a rien répondu. « Parle-moi, parle-moi ma belle, mon adorée, parle-moi. » Ah, la fille ne dit toujours rien. Alors le capitaine supplie la mère, la vieille, de faire parler sa fille. « Parle-moi, mon cœur, mon trésor, parle-moi. » Mais la fille de la mère ne desserre pas les lèvres. Vers de dépit, le capitaine perd patience. « Eh bien, puisque tu ne veux pas me parler, j'en épouserai une autre. » La jeune fille se contente de hocher la tête. La tempête est passée, le capitaine ramène son bateau vers la rive. Et la vieille descend sans demander son reste. Ce qu'elle est devenue, je ne peux pas vous le dire, parce qu'à partir de ce moment-là, elle sort complètement de l'histoire. Le capitaine installe la belle muette dans une petite maison blanche au bord de la falaise et il se marie avec une autre. La nouvelle de cette jeune fille à la sublime beauté qui habite dans une maison blanche au bord de la falaise se répand. Et voici que le capitaine, quelque temps après, doit reprendre la mer. Pendant que l'équipage charge le bateau, le capitaine fait ses adieux à sa mère et à sa jeune femme. Et sitôt que le mari est parti, la jeune femme, qui s'ennuie un peu, va se promener. Et quand elle arrive à la maison blanche, la fille de Thalassa est là. Elle lui sourit, elle lui dit « Viens, viens boire le café avec moi. » La femme du capitaine est très étonnée, elle lui dit « Mais tu parles, on m'avait dit que tu étais muette. » La jeune fille sourit et puis voilà, elle s'installe devant le café, elle bavarde. Et elle lui dit « Mais reste déjeuner avec moi. » La fille de Thalassa frappe dans ses mains, elle appelle « Huile, vinaigre, venez ici !» Et aussitôt, le pot d'huile, la carafe de vinaigre, saute de l'étagère et arrive en se dandinant jusqu'à leur maîtresse. La femme du capitaine est très étonnée de tout cela. Puis, la fille de Thalassa remplit la poêle d'huile. Elle met ça à chauffer sur le feu. Et quand l'huile est bouillante, elle met ses mains dans l'huile. Elle y plonge ses mains, 5 doigts, 5 petits harengs. 5 autres, 5 merlans. Puis elle retire ses mains de l'huile. Ses mains sont toutes grasses, mais pas du tout brûlées. Et dans la poêle, maintenant, il y a 5 harengs et 5 merlans. Quand les poissons sont frits à point, les deux jeunes femmes s'attablent et elles se régalent. L'épouse du capitaine remercie son hôtesse et vite, elle rentre chez elle. Et le soir, eh bien, elle veut faire pareil. Elle appelle « Huile, vinaigre, venez ici !» Ni l'huile, ni le vinaigre ne bougent d'un pouce. Elle se dit « Ah, ils sont vraiment pas obéissants, ils doivent être fatigués !» Alors, elle fait tout comme elle a vu la fille de la mère le faire. Elle remplit la poêle d'huile, elle la met à chauffer, et quand l'huile est bien chaude, elle y plonge ses doigts. Mais au lieu de devenir des poissons, eh bien, c'est elle qui va mourir brûlée. Quelques jours plus tard, le capitaine revient. Sa mère lui annonce la nouvelle. Oh, « Mon fils, eh ben, te voilà veuf !» Et elle lui raconte que ça a un échange d'invitation et comment sa femme a voulu imiter la fille de la mère et comment elle est morte brûlée. Très bouleversé, le capitaine se précipite à la petite maison blanche au bord de la falaise. « Parle-moi, parle-moi, ma belle, ma dorée, mon adorée, parle-moi !» La fille de la mère reste muette. Le capitaine en colère dit « Eh bien, puisque c'est ainsi, je me marie avec une autre !» Et peu de temps après, le voilà qui se remarie. Puis, il est capitaine et peu de temps après aussi, il doit repartir en mer. Il fait ses adieux à sa mère, puis il embrasse sa nouvelle épouse et il lui dit « Tu sais, si j'apprends que tu as rendu visite à la muette, là, dans la maison blanche, au bord de la falaise, je te ferai couper les mains. »« Oh, mon mari, je n'irai pas, je me regarderai bien. » Mais dès que le capitaine est parti, la jeune femme n'a qu'une envie, c'est de voir cette fameuse fille muette que son mari lui a interdit d'aller voir. Et elle arrive à la petite maison au bord de la falaise. Ah, la fille de Thalassa est là, qui l'accueille chaleureusement. « Oh, bien, entre, tu vas m'aider à tisser. » La femme du capitaine obéit et elle s'installe dans la chambre au premier étage. La fille de la mère ouvre la fenêtre, elle plante quelques clous sur le rebord, elle y accroche des fils à tisser, puis elle attrape un autre fil dans la main et hop, elle saute par la fenêtre. Et elle revient, et dedans, et dehors, et pfft, un dedans, dehors, en a rien de temps, elle a tissé une étoffe magnifique. L'épouse du capitaine est époustouflée. Et elle dit, ah ben écoute, moi aussi, il faut vite que je rentre chez moi, moi aussi, il faut que je tisse. Et vite, elle rentre chez elle, arrivée dans sa maison, elle ouvre grand la fenêtre, elle plante des clous, elle y accroche des fils à tisser, elle saute par la fenêtre, mais elle, eh bien, elle ne revient pas. Elle s'écrase sur les rochers en dessous. Et de retour, quelques jours plus tard, le capitaine cherche sa femme. Et sa mère lui apprend la nouvelle. « Ah, mon fils, ta femme s'est rendue chez la fille de la mère, puis en revenant, elle a ouvert la fenêtre, elle a sauté par la fenêtre, elle s'est écrasée sur les rochers. » À nouveau, très, très affligé, le capitaine se précipite à la petite maison blanche au bord de la falaise. « Je t'en supplie, parle-moi, parle-moi, ma belle, ma adorée, mon adorée. Parle-moi, mon trésor. » La fille de la mère ne desserre pas les lèvres. Alors le capitaine la quitte, sans attendre, il se cherche une nouvelle épouse. Le voilà marié, bientôt, il est obligé de repartir. Il fait ses adieux à sa mère, puis à sa femme. « Si j'apprends qu'en mon absence, tu es allé à la Maison Blanche au bord de la falaise, je te ferai couper la tête. »« Oh non, mon mari, je n'irai pas. » Le capitaine s'empresse de rejoindre son bateau. Mais la jeune femme, sa curiosité attisée par cette interdiction bizarre, se précipite chez la fille de la mère. Et celle-ci l'accueille chaleureusement. « Viens, aide-moi, j'ai de l'étoffe à couper pour me faire une robe. » Ah, elle entraîne la nouvelle mariée au bord de l'eau. Là, elle jette une grande étoffe qui se déplie sur les vagues. Alors voilà qui se met à courir sur l'eau et en deux temps, trois mouvements, le tissu est coupé. Abasourdie, la femme du capitaine n'a qu'une envie, bah c'est de faire pareil. Alors elle dit, ah bah écoute, maintenant je dois rentrer, moi aussi j'ai du tissu à couper. Et puis, la voilà partie. De retour chez elle, elle monte dans sa chambre, elle prend un grand morceau de drap, elle court jusqu'à la mer, elle étend son étoffe sur les vagues et elle saute à l'eau. Seulement, une vague arrive et puis une autre, et les vagues l'emportent, la voilà noyée. Le capitaine rentre, on lui apprend la nouvelle. Il est bouleversé. Mais qui est cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas? Pourquoi est-ce qu'elle fait mourir toutes mes épouses les unes après les autres? Alors il se rend à la petite maison blanche au bord de la falaise, mais il se cache derrière la porte. Et il entend la fille de Thalassa qui appelle « Huile, vinaigre, venez vite !» Le capitaine regarde tout par le trou de la serrure. Et voilà l'huile et le vinaigre qui sautent de l'étagère et se précipitent, mais ils se précipitent avec tant d'enthousiasme qu'ils se cognent l'un l'autre et le col du pot de vinaigre se casse. Tout penaud, le vinaigre dit à sa maîtresse « Par le nom de ta mère, Thalassa, de ton père, le soleil !» Par tes sœurs, les vagues d'or, pardonne-moi, ne me gronde pas. J'ai voulu arriver tellement vite, je me suis cassée. Pardonne-moi, s'il te plaît. » La fille de la mère lui répond, « Tu es tout excusée. Toi, simple pot de vinaigre, tu sais comment il faut me parler, alors que le capitaine, lui, il a déjà perdu 3 épouses et il ne sait toujours pas comment s'adresser à moi. » Le capitaine, qui a tout entendu, sort de sa cachette. Il se précipite dans la maison et dit « Par le nom de ta mère, Thalassa, de ton père, le soleil, de tes sœurs, les vagues d'or, deviens mon amante, mets fin à mes douleurs. » Alors elle éclate de rire. Elle lui répond « Eh bien j'accepte, mais tu peux remercier le pot de vinaigre qui t'a appris comment s'adresser à moi. » Ah, ce que le capitaine a fait. Elle a remercié le pot de vinaigre. Et puis, elle a pris la fille de Thalassa dans ses bras. Oh, ça a été un très long baiser. Et ce que dit l'histoire, c'est qu'ensuite, ils se sont mariés et qu'ils ont vécu très longtemps, très heureux. Catherine Ringer, quel est ton nom pour notre pause musicale? Alors, un petit voyage dans le temps, ça vous dit? Allons dans la Grèce antique avec l'histoire de Tirésias. Tirésias était un jeune homme, insouciant et curieux de tout. Et il allait par les chemins, il aimait faire de nouvelles connaissances, voir de nouveaux paysages. Et voilà qu'un matin de printemps, eh bien, il a fait l'ascension du mont Silène. Et arrivé au sommet, il a posé son sac pour se reposer un peu, et il a bu à sa gourde. Et il a rêvé en regardant le soleil qui peu à peu éclairait les vallons en dessous de lui, en les faisant sortir de l'ombre. Et soudain, il y a un sifflement qui l'a fait sursauter. Et près de lui, il a vu un buisson qui était pris de frémissements. Alors il s'est penché parmi les ronces et il a découvert deux serpents qui étaient en train de s'accoupler. Alors, le front de Tirésias s'est rembruni, c'était un très mauvais présage, ça. Tout le monde le savait, tous les oracles le disaient. Et contrarié, sa journée s'annonçait tellement bien, puis voilà ça, le jeune homme a attrapé son bâton et il l'a abattu sur le crâne d'un des serpents, c'était la femelle. Et voilà qui lui a fracassé le crâne. Et le mâle s'est dressé sur sa queue enroulée et il a mordu le poignet du jeune homme. Puis il a disparu entre les branches. Tirésias s'est senti partir, il s'est appuyé contre le tronc d'un pin, mais voilà qu'il a sombré dans l'inconscience. Combien de temps? Sans doute longtemps, parce que quand il est revenu et a retrouvé ses esprits, le soleil était en train de se coucher. Il s'est frotté les yeux et là, son corps avait changé. Maintenant, et il avait deux seins bien ronds, une taille fine, des hanches galbées et un sexe de femme. Tirésias était devenu une jeune femme. C'était la malédiction du serpent. Elle, donc, puisque c'était maintenant une femme, elle, Tirésias, elle s'est dit, ma foi... Ce sera peut-être une expérience intéressante, parce que découvrir les secrets de la féminité, ça peut être quelque chose. Alors, toute joyeuse, elle s'en est allée vivre sa vie de femme. Elle s'en est donnée à cœur joie pendant 7 années. Puis, les 7 ans révolus, un beau matin de printemps, Tirésias, elle a attrapé son bâton. Elle a fait l'ascension du mont Silène. Arrivée au sommet, elle a fait halte à l'ombre du grand pin. Elle a guetté et elle n'a pas eu à attendre longtemps. Bientôt, elle a vu les buissons frémir, un sifflement et les deux serpents enroulés l'un à l'autre qui se dressaient au milieu des ronces. Alors, Tirésias, soigneusement, a abattu son bâton sur le crâne de l'autre serpent, du mâle. Elle lui a fracassé le crâne. Et la femelle s'est dressée, elle a mordu la jeune femme au poignet, puis elle a disparu dans les broussailles. Tirésias, satisfaite, s'est laissée aller contre le tronc du pin. Elle a perdu conscience. Au soleil couchant, il s'est réveillé. Il avait retrouvé son corps d'homme. Poitrine plate, hanches étroites, sexe ferme et rassurant. Tout heureux, il a repris sa vie insouciante. Voilà qu'à quelque temps de cette histoire, Zeus, le maître de l'Olympe, rentrait un soir sur la pointe des pieds retrouver la couche conjugale. Après une de ces aventures galantes dont il était coutumier. Seulement ce jour-là, sa tendre moitié, Héra, était bien réveillée. Elle a déversé sur Zeus toute l'aigreur de sa bile. Et au bout d'un moment, Zeus lui a dit, mais tais-toi donc, tu ne sais pas ta chance. Nous, quand on mange peu, eh bien, on a faim souvent. Et la jouissance des hommes est brève, donc leur désir est incessant. Alors que vous, les femmes, eh bien, vous avez la chance d'avoir un plaisir, d'éprouver un plaisir beaucoup plus vaste et plus profond que nous. Et du coup, tu n'as pas à te plaindre. Héra n'était pas du tout de cet avis. Comment peux-tu dire ça alors que tes cris de jouissance ébranlent l'univers et que moi, je gémis à peine. Elle est voilà en train de se disputer pour savoir dans l'acte d'amour qui a le plus de plaisir, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme. Zeus soutenait que le plaisir de la femme était bien supérieur à celui de l'homme et Héra prétendait le contraire. La dispute s'est envenimée jusqu'au moment où le dieu des dieux a proposé un arbitre, un homme capable de trancher le débat, Tirésias. Tirésias qui avait été homme et femme, et Héra a accepté son arbitrage. Aussitôt, Zeus a dépêché Hermès pour lui ramener Tirésias. Les autres dieux et déesses, informés de la controverse, sont pressés autour du couple divin, impatients d'entendre la réponse à cette question fondamentale. Tirésias, arraché à sa couche de berger, est propulsé dans la chambre divine. Homme, dit Zeus, éclaire-nous, qui jouit le plus fort, de l'homme ou de la femme? Tirésias n'a pas hésité, il a répondu, Dieu, si la jouissance d'amour se composait de 10 parts, alors l'homme n'en aurait qu'une, et la femme en aurait 9. Autrement dit, le plaisir féminin est sans commune mesure avec le plaisir masculin. Zeus a souri, triomphant, mais Héra, au comble de la rage, a lancé à Tirésias « Et comment est-ce que tu peux vouloir nous tromper ainsi? Mais quel mensonge! Eh bien, puisque tu n'es pas capable de voir ce qui est réel, eh bien, tu ne verras rien, tu seras aveugle. » Et d'un coup d'index rageur, elle lui a ôté la vue avant de partir, rouge de colère. Zeus, désolé pour Tirésias, a essayé de le consoler. « Ah, je ne peux pas défaire ce qu'a fait la déesse. Tu seras aveugle. Mais en récompense de ton témoignage, en compensation de ton infortune, eh bien, désormais, tu auras le don de prophétie. Je t'accorde aussi une vie longue, longue de 7 générations. » Zeus a appliqué sa salive sur les paupières de Tirésias. Ah, c'est ainsi que Tirésias a perdu la vue du dehors, mais a gagné la vue du dedans. Une vie 7 fois plus longue que tous les autres mortels. Les références de nos contes d'aujourd'hui. La fille de Thalassa, conte de la nuit grecque de Anna Angelopoulos aux éditions Corti. Et aussi La fille de la mer, une version de la conteuse Mania Maratou dans Babel Conte, édition Arte. Pour Tirésias, les métamorphoses d'Ovide dans la traduction de Marie Cosnet aux éditions de l'Ogre. Les contes des sages et des fous amoureux de Jean-Jacques Fdida aux éditions du Seuil. Le livre des amours de Henri Gougaud aux éditions Point. Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saféréol 94.2, l'émission qui compte, avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Au mois prochain pour de nouvelles histoires.